ici il s'agit de la lecture publique, mais ce n'est pas grave, à l'exhortation à l'enseignement. Attache-toi, applique-toi à cela. Vous n'avez pas même le choix, moi non plus je n'ai pas le choix. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons nous appliquer à ces choses. Et là encore, le danger, c'est ce qui vient se substituer à la parole de Dieu. Le jeune prophète Jérémie disait, ce verset réjouit toujours notre cœur, puissions-nous le vivre, « Tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées, et tes paroles ont été pour moi l'allégresse, la joie de mon cœur. » Alors, regardons un peu ce qui nous concerne. Voilà la Bible, même image que tout à l'heure. Voilà, ça c'est moi. Normalement, je reçois la lumière directe de la parole de Dieu, et comme on le chante quelquefois, par sa parole, il éclaire ma route, par la prière, moi je peux lui parler. C'est notre relation avec Dieu, mais une relation qui est basée quand même sur la parole de Dieu qui nous fait tout connaître de Dieu. Qu'est-ce que nous connaîtrions de Dieu si nous n'avions pas sa parole? On pourrait connaître sa grandeur dans la création, etc. Mais la pleine révélation de Dieu est par Jésus-Christ, dont l'histoire se trouve dans la Bible. Alors là aussi, risque d'arriver un commentaire super recommandé par un frère bien-aimé. Et on lit le commentaire, ah, il est extra. Le seul problème, c'est qu'on apprend le commentaire presque par cœur, et on pourra citer le commentaire, mais on ne peut pas citer obligatoirement la Bible. Comprenez-moi bien, les commentaires peuvent être extrêmement précieux, mais en aucun cas, ils ne doivent se mettre entre la Bible et nous. Toujours pareil, le frère qui a écrit un commentaire vivait dans une proximité peut-être plus grande que moi de Christ. Il a reçu quelque chose, je ne veux pas le mépriser, je veux le recevoir, mais toujours de façon incidente. Je garde mon contact direct avec la parole de Dieu. Et nous disions tout à l'heure avec un frère que, compte tenu peut-être aussi de mon âge ou de la connaissance accumulée, j'ai lu énormément tous les commentaires, beaucoup de commentaires, énormément, jusqu'à en perdre en partie la vue. Donc, je sais ce que sont les commentaires. Eh bien, depuis 20 ans environ, je veux puiser directement à la source. Et à ce moment-là, la parole m'a parlé d'une façon extraordinaire, nouvelle. Vous découvrez des perles, vous les gardez, c'est votre trésor personnel. Vous savez, des morceaux de versets. Je fais, par exemple, toujours les choses qui plaisent à Dieu, dit le Seigneur. Oh, il faut arrêter, on va réfléchir. Le Seigneur, il faisait toujours les choses qui plaisaient à Dieu. Et on part dans une contemplation de la personne de Christ. Mais il en est des milliers de petits versets comme ça qui nous amènent à la reconnaissance, à la louange. Ézéchias apparaît comme un homme pieux, un homme de cœur. J'ai à cœur de faire alliance avec l'Éternel pour rechercher son Dieu. Il agit de tout son cœur. Et il peut dire en vérité qu'il a marché avec un cœur parfait. C'est un homme sensible. Il n'est pas indifférent. Comme le bon samaritain de la parabole, voyant une misère, il ne détourna pas sa tête, mais il s'arrêta. Et il se baissa, il se mit à genoux, il descendit de sa bête, et il soigna l'homme à demi-mort qui était tombé entre les mains des voleurs. Rien ne le laisse indifférent, ni l'état misérable de la nation à son accession au trône, ni la joie de son peuple lors de la Pâque, ni les épreuves qui viennent sur lui. Il prend place dans la lignée des innombrables hommes de foi qui, dans l'Écriture, pleurent sur autre chose que sur leur péché. Suivant les civilisations, il est malvenu de montrer ses émotions en public. Peut-être, mais vous savez, la politesse a ses limites aussi. Moi, je vois dans la Bible que les grands hommes de Dieu pleurent, y compris en public. Alors là aussi, on ne va pas faire du théâtre pour faire bien. Mais de notre côté, soyons vrais. Dieu veut la vérité dans l'homme intérieur. Il y a des choses qui peuvent nous faire pleurer et d'autres qui peuvent nous réjouir. Et les émotions, il ne faut pas les cultiver, il ne faut pas les exacerber, il ne faut pas, etc. Enfin, c'est quand même Dieu qui nous les a données. Donc, Essayons de ne pas être des personnages, mais des personnes. Sommes-nous des hommes pieux ? Paul dira, la piété avec le contentement est un grand gain. Et un peu plus bas, mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses, les choses mauvaises, et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit. Là aussi, poursuis. Pourquoi ? Parce qu'elles nous échappent. Poursuis ces choses. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Ézéchias apparaît aussi comme un homme de prière. 2 Chroniques 30, 19, il intercède pour les autres. 2 Rois 19, 15, il prie lors de l'attaque de Sanhérib. 2 Rois 22, il prie lorsque l'épreuve tombe sur lui. 2 Rois 19, 4, il recherche la prière des autres. 2 Rois 19, 15, il sait prier. Ses prières sont courtes et précises. Les deux prières qui nous sont rapportées durent respectivement 45 secondes et 10 secondes. 10 secondes. Ça peut nous faire réfléchir. Et il y a un verset qui est, je ne sais pas si je le cite plus loin, de se rappeler que quand on entre dans la maison de Dieu, on est quand même dans la maison de Dieu. C'est un verset de l'Ancien Testament. Il nous est dit que tes paroles soient peu nombreuses parce que Dieu est dans le ciel et toi tu es sur la terre. Donc faisons attention, c'est bien de faire des longues prières à la maison quand on est seul, c'est très bien. En assemblée, c'est pas bien de faire des longues prières, parce qu'on n'arrive pas à suivre. À la fin de la longue prière, on ne sait pas ce qu'il y avait au début, parce qu'on est tous comme ça. Plus vous écoutez attentivement, plus ça s'efface devant. Vous suivez, puis à la fin, vous ne savez plus. Écoutez, soyons sages. On peut prier plusieurs fois une minute. C'est une bonne technique que de ne présenter qu'un sujet. On a bien le droit d'en présenter quatre ou cinq. Mais écoutez, faites-le en quatre ou cinq fois. Vous allez ressusciter votre vie de prière. Nous avons maintes fois essayé ces choses dans divers groupes. Lorsqu'on était à l'assemblée, on avait des prières plutôt longues. Et puis, on s'est réunis dans nos maisons. Et on a dit, écoutez, on n'a qu'une soirée, c'est quand même assez lourd lorsqu'on a des enfants de venir trop régulièrement en réunion, donc on ne pouvait pas gérer. On a dit, on va faire une réunion. On va mettre au début le quart d'heure palois, de manière à donner des nouvelles, et que tout le monde soit à l'heure au début de la prière. On a fait comme ça. Hein. Et après, une demi-heure de prière. Vous ne pouvez pas savoir, si vous faites des prières courtes et précises, ce que vous pouvez mettre en une demi-heure. Et en gros, bon, une demi-heure un peu plus, un peu moins. Et ensuite, on faisait une réunion d'études de trois quarts d'heure. Trois quarts d'heure, hein, total, une heure et demie. Et bien, en une heure et demie, je n'oserais pas dire, vous en avez pour votre argent, parce qu'on ne payait pas. Mais en tout cas, vous savez que vous recevez quelque chose, ce sont des réunions édifiantes. Édifiante, et du moment qu'on avait dit, de toute manière, il ne faut pas dépasser à 5 minutes près la demi-heure, les gens ont pris l'habitude de faire des prières courtes. Parce que si quelqu'un priait pendant 10 minutes, on dit, t'es gentil, mais les autres, ils existent aussi. Ils voudraient s'exprimer. Alors, si tu ne veux pas les écraser, prochain coup, plus court. Et donc, on a une vie de prière beaucoup plus dynamique. On ne s'endort pas en une minute, hein. C'est une prière ciblée. Par contre, 10 minutes, le soir, c'est quand même un peu difficile. Donc, ces prières sont entendues et exaucées selon les expressions de 2 Rois 19, 20 et 25. Alors, est-ce que nous sommes, nous aussi, des hommes de prière ? Je dois vous dire que moi, naturellement, je ne suis pas un homme de prière. Je suis un homme d'action. Et tous les hommes d'action ont beaucoup de mal à être des hommes de prière. Je peux vous dire que je m'applique à la prière. Dès que je me réveille, la nuit, le jour, que je pense à quelque chose, je prie. C'est pas long, hein. Donc, c'est peut-être une forme d'homme de prière. Mais je connais certains de mes amis qui se mettent dans un coin pendant une heure et qui supplient le Seigneur. Mais moi, je ne sais pas bien faire. Néanmoins, la parole de Dieu nous dit « Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce. » Colossiens 4, 2. Paul nous dit qu'il prie nuit et jour très instamment. 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse, etc. Et encore ce verset de Jacques 5, « Confessez donc vos fautes l'un à l'autre et priez l'un pour l'autre, afin en sorte que vous soyez guéris, la fervente supplication du juste pour beaucoup. » Et lorsqu'il arrive un problème que j'ai signalé tout à l'heure, les apôtres concluent « Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. » Nous avons, je crois, nous remettre, moi le premier, en question. Sur le plan de la logique, on peut dire à quoi ça sert de prier, puisque Dieu sait tout avant que nous le lui exprimons. Eh oui. Mais quand je vois le Seigneur qui passe des nuits en prière dans l'Évangile, je me dis, je n'ai pas à poser une telle question. J'ai à suivre l'exemple du Seigneur. Ézéchias apparaît aussi comme un homme de foi. Il a une foi personnelle, il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il sait encourager les autres, selon l'expression que nous avons trouvée hier, en 2 Chroniques 30. Il dit « Maintenant, donnez la main à l'Éternel ». C'est en relation avec la Pâque. Il dit « Vous avez été dispersés, vous avez été infidèles, mais maintenant, s'il vous plaît, donnez la main à l'Éternel et venez à son sanctuaire ». Il voudrait que nous goûtions cette confiance. Et cette photo que vous voyez sur la gauche est touchante. C'est ma main avec celle d'un de mes petits-enfants qui venait de naître. C'est une image de la confiance. La main dans la main de quelqu'un de plus puissant. Et j'ai une petite anecdote à cet égard. Un de mes petits-fils, on était ensemble dans un endroit, il faisait nuit. Et je disais, non, grand-papa, je ne veux pas aller là-bas, c'est noir et j'ai peur. Oh, je lui dis, j'aime bien appeler mes petits-enfants, les garçons. Je lui dis, petit-fils, ton grand-papa est là, donne-moi ta main. Alors je lui dis, ça va mieux. Il me dit, oui, mais j'ai quand même encore un peu peur. Oui. Mais nous devons faire des progrès dans la confiance. Dans la confiance en Dieu. Nous devons faire des progrès. Et Ézéchias a donc une foi communicative. Si bien que l'ennemi, donc en l'occurrence l'émissaire de Sankéri, va dire « Qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance en l'Éternel, disant « L'Éternel vous délivrera certainement, et cette ville ne sera point livrée en la main du roi d'Assyrie. » Même ses ennemis savaient qu'il encourageait le peuple à mettre leur confiance dans le Seigneur. C'est bien ça, des frères, des sœurs qui sont connus dans l'assemblée pour dire « Ah lui, tu sais, il dit toujours, mais fais confiance au Seigneur, fais confiance au Seigneur. Regarde, en tant de circonstances, il nous a répondu. » Est-ce que nous sommes des hommes de foi? Eh bien, la foi, selon Hébreux 11, est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 6 va loin. « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » À noter. Hein. Et Jacques dira que l'épreuve de notre foi produit la patience. En Apocalypse 2, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta patience, tes dernières œuvres qui dépassent les premières. » Mais. Donc nous avons, le Seigneur connaît tout ce qui est dans nos vies. Et je ne sais pas, je crois que, j'espère que ce n'était pas ici, que j'ai raconté, c'est une histoire vraie. Lorsque je me suis marié, ma femme a quitté bien sûr le domicile paternel et son papa lui a dit « Qu'est-ce que tu voudrais que je... J'aimerais bien que tu me brodes un verset. » Et ma femme lui a dit « Lequel tu veux ?» Il a dit « Oh, je crois, viens en aide à mon incrédulité. » Moi, je me suis dit en moi-même, il n'est pas brillant le beau-père. Hein. Et puis, j'ai eu son âge, je l'ai dépassé maintenant. Et peut-être que si j'étais dans le même cas de figure, je demanderais le même verset. Je crois, viens en aide à mon incrédulité. Nous avons des réserves d'incrédulité extraordinaires. Il apparaît aussi comme un homme de grâce. Il faudrait développer tout le chapitre 30. Il fait la Pâque le deuxième mois au lieu du premier mois, car la réforme n'avait pas permis de réunir le peuple à temple. Alors, il fait une exception à la loi qui n'était pas prévue dans l'Écriture ni en Nombre 9, et on va la faire le second mois. Lorsque le peuple ne se sanctifie pas mais célèbre la Pâque non comme il est écrit, alors il prie pour eux, à la place de les condamner. Mais le bouquet, c'est avec le verset 23 de 2 Chroniques 30. Le peuple était tellement heureux qu'ils disent « Oh, on va faire 7 jours de plus. » Sept jours de plus, mais la loi dit 7 jours pour la Pâque et la fête des pains sans levain. Pas 14. D'ailleurs, vous n'avez plus d'animaux, plus de sacrifices. N'est-ce pas clair que 7 jours, c'est suffisant? Ah non, ils ne raisonnent pas comme ça. Puisqu'ils n'ont plus d'agneaux, c'est Ézéchias qui va fournir 1000 taureaux, 7000 moutons, pour qu'ils continuent 7 jours de plus. Eh oui, ça c'est la grâce. Ça c'est extraordinaire, ça nous bouleverse. Est-ce que nous sommes des hommes de grâce? Le salut est par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous. En ce qui concerne l'État chrétien, Pierre dira, je vous écris, vous exhortant et attestant, cette grâce dans laquelle vous êtes, écoutez, ce n'est pas une grâce diluée, ce n'est pas une grâce à bon marché, celle-là, c'est la vraie grâce de Dieu. Quant à la croissance chrétienne, eh bien, on est exhorté par le même apôtre, écrivant à la fin de sa vie, à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il termine en disant « À lui la gloire et maintenant jusqu'au jour d'éternité. Amen. » Il avait commencé son épître en disant « Que la grâce et la paix vous soient multipliées dans la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. » Celui qui ne connaît pas la grâce, y compris dans la vie d'assemblée, ne connaît pas Dieu, car Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est aussi un homme de sainteté. Séparé du mal, il prend position contre lui, mettant en pratique l'injonction divine « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal ». Il rejette l'idolâtrie, il ôte les hauts lieux, brise les statues, coupe les achères de roi 18:4. Il rejette la religion des pères, c'est-à-dire le serpent des reins, quand elle devient une forme sans signification. Il met en pièce donc le serpent des reins, c'est le même verset, qui avait été donné par Dieu, oui, et dont le peuple avait fait une idole. Est-ce que nous sommes des hommes de sainteté? Romains 6, 22, « Mais maintenant, ayant été affranchis du péché et asservis à Dieu, vous avez votre fruit dans la sainteté pour faire la vie éternelle. » Paul l'exhorte en disant, « Mais avec de telles promesses, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Et encore un Thessalonicien, « C'est ici votre volonté, la volonté de Dieu, votre sainteté. » Et l'Épître aux Hébreux va encore plus loin. « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Ce n'est pas une option, hein. Pas une option. Poursuivez la paix avec tous et la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ézéchias apparaît comme un homme qui n'est pas sectaire. Et ça, c'est important. Je souligne simplement les parties en vert. Lorsque il rétablit le service dans le temple et qu'il offre des holocaustes et des sacrifices pour la purification, il nous est dit que le roi avait dit que l'holocauste et le sacrifice pour le péché seraient pour tout Israël. Je vous rappelle que les tribus du Nord avaient été transportées déjà par le roi d'Assyrie. Il restait quelques pauvres dans le pays, mais dispersés ou pas, son cœur était pour l'ensemble du peuple de Dieu. Et lorsque nous célébrons la scène, lorsque nous voyons ce pain qui nous parle d'un côté du corps de Christ, mais aussi de l'Église qui est son corps, ce serait péché que de ne voir que l'Assemblée locale ou de ne voir que les personnes qui font partie d'une fédération ou d'un groupe ou d'un système. Ce serait un péché. J'espère que jamais le dimanche vous ne faites cela, mais qu'à ce moment-là, vous embrassez dans vos cœurs tous frères et sœurs en Christ, connus ou inconnus, tous ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsqu'il invite pour la Pâque, il envoya vers tout Israël et Judas. Il écrivit des lettres à Éphraïm et Manassé, qui étaient les tribus du Nord, pour qu'ils vainssent à l'Éternel. Il fit passer une proclamation, probablement scellée du sceau que nous avons vu hier, par tout Israël, depuis Beersheba, qui est au sud du pays, en Juda, jusqu'à Dan, qui est l'extrémité nord du territoire. Voilà un homme qui n'est pas sectaire. La question, est-ce que nous ne sommes pas sectaires, au moins? La parole de Dieu a une injonction très, très claire, très péremptoire, rejette l'homme sectaire après une première et une seconde admonestation. Il nous est dit, car un tel homme est perverti et pêche. Bon, on est tous plus ou moins un peu sectaires dans un cas ou dans un autre. Mais si quelqu'un apparaît comme un homme sectaire, il est un danger pour l'Église. Il est un danger pour l'Église. Il faut le rejeter. Parce qu'il ne mettra que la division. Et peut-être même au nom de l'unité, il passera son temps à diviser. Soit ce sont des malades, soit ce sont des méchants, soit les deux. Notre bouche est ouverte, dit Paul aux Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes pas les trois en nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Et en juste récompense, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous, vous aussi. On n'a pas tellement coutume de parler de cela. Attention, je mets un bémol. L'ouverture, d'accord, mais pas n'importe quoi. Il y a des limites, il y a des règles de jeu données dans la parole de Dieu. Il ne faut pas croire qu'on renverse les barrières pour faire bien. On renverse les barrières qui ne sont pas selon Dieu pour les replacer à l'endroit où la parole de Dieu les met. Et ne me prenez jamais pour un laxiste, je ne le suis pas et je ne l'enseigne pas. Mais on est quand même étonné de voir que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, mais enfin, vous êtes tellement étriqués, vous êtes là, engoncés, mais enfin, élargissez-vous un tout petit peu. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses que vous-même, ouvrez vos yeux et voyez. Donc, faisons attention au péché du sectarisme. Une perle rare, j'ai marqué un chrétien qui marche dans un sentier étroit, avec un cœur large. C'est une formule que nous connaissons parmi nous. Plût à Dieu que nous la mettions en pratique. Ézéchias est un homme humble. Face à l'attaque de Sennacherib, eh bien, vous savez ce qu'il fait, lui le roi, il déchire ses vêtements et il se couvre d'un sac. Ah, ouais. Il ne faut pas être trop orgueilleux pour faire ça. Face à la maladie, il pleure parce qu'il a envie de pleurer. Voilà, tout simplement. Et la parole de Dieu nous le rappelle. Et il dit à Dieu, écoute, j'ai fait le maximum pour toi. Je ne comprends pas bien. Et il verse beaucoup de larmes. Quand il est attaqué, eh bien, il demande à Dieu de le sauver. Et maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous, je te prie, de la main du roi d'Assyrie. Pourquoi ? Pour nous. Afin que tous les hommes de la terre sachent que toi, Éternel, tu es Dieu, toi seul. Autrement dit, glorifie-toi. La gloire ne doit pas être pour nous, mais elle doit être pour toi. L'humilité, c'est être ce que l'on est, par la grâce de Dieu. La véritable humilité, c'est celle que l'on a devant Dieu. Attention à la fausse humilité. Exemple. Un jour, nous étions avec un groupe de croyants, ça remonte à très très longtemps, et on demande à quelqu'un, on lui dit, mais tiens, tu ne voudrais pas jouer du piano, accompagner au piano? C'était très gentil de demander. Mais il se trouve que celui qui demandait était un virtuose et que j'ai trouvé que c'était très, très, très déplacé. Et l'autre, avec beaucoup d'humilité, a accompagné avec un doigt le cantique. Ah, quelle gifle! Ah, quelle gifle! Ça, c'est l'humilité. Si on me demande de faire quelque chose, ne dites pas toujours... Toi, tu le fais mieux que moi, ceci ou cela. Ça peut être vrai. Si on vous le demande, vous dites, je ne crois pas que je sois le mieux placé pour le faire, mais si tu me le demandes, je vais le faire. Je dis, mais son accompagnement, ça n'avait pas de figure, c'était rien. Ah, bien sûr, dans l'absolu, ça n'avait pas de figure, c'est sûr. Mais ça montrait une chose, que cette personne était suffisamment humble pour mettre au service du Seigneur et de ses frères le peu qu'elle savait faire. Et je crois que c'est une grande leçon. Alors, sommes-nous humbles? Quand on pose la question au Seigneur, « Qui es-tu ?», il répond absolument ce qu'aussi je vous dis. Et il fut condamné parce que, pour ce qu'il était, ni plus ni moins. Voilà l'exemple du maître. L'exemple de Paul, il dit en 1 Corinthiens 15-10, « Par la grâce de Dieu, je suis plus que l'un, plus que l'autre. » Non, « Je suis ce que je suis. » Quoique, il y a une comparaison dans le contexte. Pierre dira, « Vous, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. » Je suis mal placé pour vous faire des cours sur l'humilité, parce que je suis orgueilleux. Je ne suis peut-être pas le seul. L'avantage, c'est que moi, je le sais, et que je me juge. Si vous faites autant, ben vous aurez des combats autant que moi, mais au moins vous marcherez dans la vérité, dans la réalité, et peut-être dans l'authentique humilité devant Dieu. Revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité. Et ce verset est assez extraordinaire. Si vous le regardez dans le texte original, et Darby le rend bien, on doit se revêtir d'entrailles de miséricorde, des entrailles, des viscères de miséricorde. Alors on dit, bon, on prend les entrailles, on se revêt. Pas exactement, c'est un sens figuré, mais ça veut dire quoi? Montrer à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Montrer ce que vous avez dans le ventre, c'est ça, ça veut dire que ça. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. C'est-à-dire que si Dieu a travaillé dans votre cœur et s'il y a cela au fond de vous-même, au fond de votre ventre, eh bien, que cela soit réellement votre vêtement. C'est un homme qui est libéral. Il donne à la congrégation 1 000 taureaux, 7 000 moutons, pour qu'il puisse continuer une fête qui n'était pas prévue dans l'Écriture. Et d'autre part, au niveau des dîmes, eh bien, il établit que la portion du roi serait prise sur les biens pour les holocaustes. Et là, c'était pour les holocaustes. Pour les holocaustes du matin, du soir, des sabbats, etc. Ils disent, oui, ça, oh, bon, prenez-le sur mes biens. Je suis tellement heureux de le faire pour le Seigneur. C'est un homme libéral dans le meilleur sens du terme. Les premiers chrétiens du livre des Actes étaient libéraux. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon ce que quelqu'un pouvait en avoir besoin. La parole de Dieu nous demande de ne pas oublier la bienfaisance, ce que nous risquons de faire. Alors là aussi, le schéma d'acte 2 ne durera pas. Et quelqu'un me disait récemment, et je trouvais que c'était très, très fin, en disant que si nous donnons tout ce que nous avons aux pauvres, nous ne faisons pas sortir les pauvres de leur état, mais nous avons ajouté un pauvre de plus. Eh oui. Donc, attention aux applications des fois littérales. Par contre, nous sommes exhortés à la bienfaisance, au partage, et même cet ordre de 1 Timothée 6, très fort, ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains, qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui donne toutes choses richement pour en jouir, qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres. Donc, il y a un commandement, ce n'est pas un péché d'être riche, ce n'est pas une vertu d'être pauvre, mais chacun doit gérer ce qu'il est à la gloire de Dieu, et ceux qui sont riches ont plus de responsabilités dans la libéralité que les pauvres. Et j'aime énormément ce verset de 2 Corinthiens 9:11, étant de toute manière enrichi, merci Seigneur, la suite, pour une entière libéralité. Oh. Ça nous fait revenir sur la terre, enrichi pour donner. Enfin, Ézéchias se présente comme un adorateur. Il offre l'holocauste sur l'autel, il se prosterne devant Dieu, il loue et il fait louer avec joie l'Éternel, il s'incline, il se prosterne, Et c'est donc une louange communicative. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui étaient entendus dans la bonne connaissance à l'égard de l'Éternel. Ils mangèrent pendant les 7 jours les offrandes de la fête, sacrifiant des sacrifices de prospérité et exaltant l'Éternel, le Dieu de leur père. 2 Chroniques 30:22. Il est lui-même un adorateur et il entraîne les autres. Il entraîne les autres dans la louange, dans la reconnaissance. Et nous, sommes-nous des adorateurs? Nous connaissons bien ce passage de Jean 4 où il nous est dit que le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce passage aussi de 1 Pierre 2, avec une condition, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, eh bien approchez-vous, pourquoi faire? Il y a une double fonction dans ces versets, au verset 5 et au verset 9. La première des choses, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et Hébreux 13 dit la même chose. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Là aussi, ce n'est pas une option. Si on est un enfant de Dieu conscient de la grâce, on est un adorateur. Et même, nous le sommes, même si nous ne pratiquons pas. C'est pour cela que je vous disais hier qu'il faut faire bien attention de ne pas ravir à Dieu ce qui est, si j'ose dire, une des joies pour son cœur. Je fais un anthropomorphisme, c'est-à-dire on met des sentiments humains sur Dieu. Bon, c'est pas grave. C'est-à-dire que Dieu veut être adoré. Quelqu'un me dira, moi, vous savez, j'ai quitté cette assemblée parce que la forme du culte ne me plaît pas. Très bien. Je n'y trouve pas mon compte. Je ne suis pas renouvelé. Je ne suis pas ceci, là. Les cultes ne me plaisent pas. Je dis, mais arrêtez, vous êtes gentil, mais à la limite, ça ne vous plairait pas. C'est pas là le problème. Est-ce que ça plaît à Dieu? Ça change tout, parce que le culte est pour Dieu, il n'est pas pour vous, hein. Nous allons de plus en plus vers les cultes spectacles. Et si le spectacle ne convient pas, on change de cirque. Mais écoutez, excusez-moi, mais l'adoration, ça n'a jamais été ça. Hein. Jamais de jamais, ça. Donc, si on vient pour le Seigneur, si on vient l'adorer, l'important, c'est que ce culte honore Dieu. Si Dieu est honoré, je peux être partout où Dieu est honoré avec sincérité et vérité. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Matthieu 4. Il est aussi un générateur de joie. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent. 2 Chroniques 29:36. Lors du rétablissement de la Pâque, il y eut une grande joie. 2 Chroniques 30:25, toute la congrégation de Judas se réjouit. Une joie partagée est une joie multipliée. Alors, est-ce que nous sommes aussi des générateurs de joie en marchant personnellement à la gloire du Seigneur, en annonçant l'Évangile, en participant à l'ordre, à l'édification de l'Assemblée, en participant positivement aux diverses rencontres fraternelles, en apportant encouragement et rafraîchissement autour de soi, en écrivant de bonnes lettres qui parlent du Seigneur Jésus, que notre joie ne soit jamais tellement profonde qu'elle n'arrive plus à sortir. Le bémol. Dieu mentionne aussi les fautes de ses serviteurs, que ce soit pour David ou pour Ézéchias. À l'exception de Christ, il n'y a personne qui soit parfait. Pas de juste, non, pas même un seul. Eh bien, lorsque nous considérons la vie de ces hommes, réalisons que homme, comme nous dans leurs fautes, nous pouvons être hommes de foi comme eux dans leur fidélité. Ainsi, nous trouvons dans la vie d'Ézéchias quelques brèves manifestations de ce qui se trouve au fond de tout cœur d'homme, l'indépendance, l'incrédulité, l'orgueil et l'égoïsme. Est-ce que nous avons des bémols? Nous avons tous, donc depuis la chute, un potentiel de faiblesse. Nous avons les mêmes passions que nos frères. Nous ne sommes ni meilleurs ni pires. Nous sommes faits de la même pâte. Dans Job 33, voici, je suis comme toi. Quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. Sauf erreur, c'est Élie qui parle. Mais nous n'avons aucune obligation de marcher selon la chair, car Dieu, par son esprit, nous propose une vie de victoire avec Christ. Il est temps d'arriver à la conclusion. Ézéchias fit ce qui est bon, droit, vrai, devant l'Éternel son Dieu, et dans toute œuvre qu'il entreprit, dans le service de la maison de Dieu, et dans la loi et dans les commandements pour rechercher son Dieu. Il agit de tout son cœur et prospéra. Il est un modèle des fidèles. Et nous, notre bilan, que dira Dieu à la fin de notre vie? Nous savons, par les versets que vous voyez ici, que chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Chacun pour lui-même. Chacun recevra sa louange de la part de Dieu, 1 Corinthiens 4, versets 3, 5. Et encore le verset 10 de 2 Corinthiens 5, « Il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. » Et il continue en disant, « Connaissant combien le Seigneur doit être craint, oui, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Alors, Ézéchias, comme David, a servi au conseil de Dieu en sa génération. C'est un verset qu'on trouve en Actes 13. Et la question se pose, honnêtement, et nous, ça c'est pour l'Assemblée. Et moi, ça c'est pour nous. À toi, Seigneur, je m'abandonne. Ton grand amour m'a terrassé. Ma vie entière, je te donne mes biens, mes rêves, mon passé. Que puis-je te donner encore? Les cieux, la terre sont à toi. Un cœur qui t'aime et qui t'adore est plus que tout l'argent des rois. Et si je t'aime, ô tendre maître, te suivre sans aucun détour, à tous tes ordres me soumettre, sera ma joie pour toujours. Pour notre monde qui t'oublie, un monde pauvre en vrai bonheur, accepte Christ et multiplie le peu que vient t'offrir mon cœur.